Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph, le 22 octobre 1986.
Transposer, chercher, souligne tout de suite, c'est intéressant. et celle de notre maître. Mais je le répète, que fera le jardinier ? Puisque c'est toujours la comparaison qu'elle prend. Le maître du jardin, il se réjouira, il se consolera, il considérera que c'est déjà une très haute faveur de travailler dans le jardin d'un si haut souverain. Il sait en effet que par là, il le contente et son but doit être de rechercher non une satisfaction personnelle, mais celle de son maître. Vous faites en raison, par obéissance. C'est ça. Vous faites en raison, par obéissance, et vous renouvelez de temps en temps cela. Pourtant, ça rectifie votre intention. Vous vous êtes donné un règlement de vie. Les constitutions demandent que nous fassions raison. Ben, nous faisons raison. Sans doute à tel point avant. Sans aujourd'hui. Ça ira pas très bien. Aujourd'hui, ça va pas. Ouais, je ferais bien de faire raison à une autre heure. Non, c'est fixé. Sans chercher une satisfaction personnelle, mais celle de celui que nous aimons. Se remettre entre les mains du Christ pour le suivre jusqu'à la mort même de la croix. Oui, l'intention se précise. Suivre l'agneau partout où il va. C'est ça le propre de l'oraison. C'est pour ça qu'il est toujours bon de commencer son temps d'oraison par des actes d'adoration. Des actes explicites. Adoration. Sauf si dès que vous êtes à la chapelle, vous vous mettez à genoux et immédiatement l'aigle divin s'empare de vous. Alors à ce moment-là, laissez-le. Mais si l'Esprit Saint vous laisse libre, commencez tout de suite par des actes d'adoration. Et plusieurs fois répétez. Vous voyez ? Parce que par les actes d'adoration plusieurs fois répétés, vous mettez dans les mains de Dieu. Se mettre entre les mains du Christ pour le suivre jusqu'à la mort même de la croix. Vouloir souffrir parce qu'il a souffert. Désirer sa volonté. C'est ça qu'on veut avant tout et plus que tout. Qu'elle soit, que l'âme soit résolue à aider Jésus à porter la croix elle-même, sans le laisser jamais seul sous son fardeau. Donc, acceptez de suivre Jésus, suivre l'agneau. Et je crois que c'est par l'adoration qu'on se met le plus immédiatement dans cette circonstance. Voyez la vocation de Jean. Je vous ai déjà dit que c'était pour nous le petit itinéraire de l'oraison. Jean est habitué à comprendre l'adoration par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est un maître merveilleux qui apprend ce que c'est que l'adoration. Ça, c'est un maître de novice étonnant, pas très commode. J'en suis sûr. Vieille formule. Pas du tout un novateur. Apprenez ses disciples à faire oraison. Et c'est les disciples, en faisant oraison, qui peuvent entendre « Voici l'agneau de Dieu ». Et vous pouvez très bien, en ayant fait des actes d'adoration, vous dire à vous-même, en regardant le tabernacle, « Voici l'agneau de Dieu ». Je crois que l'adoration nous éveille à écouter la parole de Jésus, à entendre la parole de Jésus. Et le témoignage de Jean-Baptiste est là merveilleux. Voici l'agneau de Dieu. Et c'est bon de se le dire pour se réveiller du reste. Il faut de temps en temps se dire ça. ça, évidemment, vous n'avez pas à dire tout. Mais intérieurement, vous le dites. Pour réveiller votre foi et vous mettre à la suite du Christ. Acceptez la souffrance parce qu'il a souffert. Conformez votre volonté à la sienne. Suivre. Or, quand on suit l'agneau, on ne le voit pas. On accepte d'être dans l'obscurité de la foi. Et on veut rester dans l'obscurité de la foi. C'est le propre de suivre quelqu'un. La formule « suivre l'agneau » est très très forte. Parce que quand on suit quelqu'un, on ne le dirige pas. On est à son rythme. On le suit. C'est pas nous qui nous mettons au rythme de l'agneau. Plutôt, c'est pas nous qui commandons le rythme de l'agneau. Nous nous mettons au rythme de l'agneau. Ne plus faire cas des consolations ou des tristesses, ce qui est beaucoup plus difficile. Mais ce qui est quand même très important, je vous lis ce passage toujours dans la vie de Sainte Thérèse écrite par elle-même. Voici une remarque importante, je le dis, parce que je le sais par expérience. Oui, ce n'est pas des principes, c'est l'expérience. Description. L'âme qui commence à marcher résolument dans une voie de leur raison mentale et qui en est arrivée à ne plus faire cas des consolations ou des tristesses excessives, des goûts et des tendresses qu'elle reçoit ou dont elle est privée, a déjà parcouru une grande partie du chemin. Les consolations, les joies ou les tristesses, c'est toutes les petites violettes qui sont sur le chemin. Et on s'attarde à les cueillir. Et on fait un petit bouquet. Et ça sent très bon. C'est merveilleux. Alors on doit dépasser cela. Bon, on ne doit pas chasser les consolations, mais les dépasser. On doit s'en servir, autrement dit. Ça nous aide à aller plus vite. C'est bien évident. Si on a des petites consolations sensibles, si dès que vous entrez dans la chapelle, vous vous mettez à genoux, vous faites un acte d'adoration, vous regardez le tabernacle et vous vous dites à vous-même, voici l'agneau de Dieu. Je veux le suivre. Et que maintenant, à ce moment-là, vous êtes tout brûlant d'amour. Très bien. Ne vous arrêtez pas à ça. Dépassez dans un acte de foi, d'espérance et d'amour. Et donc dépassez ce que nous pouvons ressentir d'ordre sensible. Vous savez que Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix sont farouches pour ne pas nous engluer. Si Dieu nous donne ces grâces de consolation sensible, c'est que nous en avons besoin pour nous réveiller. Alors c'est très bien, on les accepte, on les rejette pas. Mais on les dépasse. On veut éveiller en nous une volonté d'aimer pour aller plus vite. Qu'elle ne craigne point malgré tous ses faux pas. Elle ne retournera pas en arrière. L'édifice auquel elle travaille repose sur un fondement solide. Non, l'amour ne consiste pas à répandre des larmes, ni à goûter ses douceurs et ses tendresses que l'on désire ordinairement pour y trouver de la consolation. L'amour consiste à servir Dieu dans la justice, dans la force d'âme et dans l'humilité. Sans cela, nous semblerions recevoir toujours ne rien donner. Ça, c'est la générosité. Et c'est très important, cette attitude-là. C'est très très bien la réceptivité. Mais attention, il ne s'agit pas de s'enfermer sur la consolation. Les consolations, il faut s'en servir. Il ne faut pas demeurer dans les consolations. En attendant que ça passe. Et si ça dure toute la journée, vous restez dans la consolation toute la journée. Attention. Parce qu'à ce moment-là, vous restez dans un petit cocon. Vous devez vous en servir pour vous donner plus, pour que l'adoration soit plus fervente, pour que la foi adhère plus profondément à la parole de Dieu, pour que vous soyez plus directement unis à lui. Alors, c'est très important, vous voyez, on voit bien ces étapes de la première oraison, très simple. Une adoration, exprimer sa soif de suivre l'agneau partout où il va. Exprimer ce désir très intense et ne pas s'arrêter aux consolations. Parce que le démon peut quelquefois nous engluer dans les consolations. Alors on perd du temps. Ne pas chercher à s'élever soi-même plus haut. Ça, c'est un excellent conseil. Une âme que Dieu n'aura pas élevée au-dessus de cet état fera très bien de ne pas chercher à monter d'elle-même. Qu'elle y fasse bien attention, sans quoi elle ne pourrait y perdre. Faire attention. L'œuvre de l'oraison, c'est pas notre œuvre. C'est pas notre œuvre. On ne doit pas cependant, vous comprenez bien, rester sans exercer une bonne volonté. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois qu'on récite lentement un Ave Maria. Ça ne peut faire que plaisir à Marie. Puisqu'elle est là. Puisqu'elle désire nous aider. Et ça, c'est pas un désir de s'élever plus haut, c'est le désir d'entrer dans cette volonté du Père sur nous. Le temps de l'oraison, c'est un temps de prière. C'est un temps consacré uniquement à Jésus. Alors, elle souligne dans ses dispositions qui sont très importantes la nécessité de demeurer dans l'humilité. Et l'oraison, même ce premier degré d'oraison, est au-delà des vertus morales. Ça, c'est bien évident. L'humilité ne nous met pas en oraison. Mais l'humilité accompagne notre effort. Page 118. Voilà donc ce que nous ne pouvons pas par nos propres forces. Celui qui voudrait passer outre et élever son esprit jusqu'à jouir de ses douceurs intimes qui ne lui sont point donnés, perdrait, à mon avis, l'un et l'autre, car cette faveur est surnaturelle. Et si l'entendement cesse d'agir, l'âme tombe dans un désert, dans une aridité complète. Or, comme cet édifice repose tout entier sur l'humilité, plus nous approchons de Dieu, et plus nous devons grandir en cette vertu, sans quoi tout l'édifice croule. Il y a en effet, à mon avis, une sorte d'orgueil à vouloir par nous-mêmes monter plus haut. Vous voyez, c'est une oraison qui est très proche de la méditation, cela. Qui est très proche de la méditation et, je dirais, de l'exercice très simple de certaines prières, des actes d'adoration, des actes d'amour, des actes de désir. On récite un peu de chapelet, c'est le premier degré. Il faut tous commencer par là, et on y revient de temps en temps. On ne peut pas croire du tout qu'on n'y revient pas. Un doux sommeil, parce que on s'ennuie, plutôt que de regarder sa montre tous les 5 minutes, parce que c'est très long, il vaut mieux avoir l'humilité. C'est l'humilité de réciter un peu de chapelet auprès de la Sainte Vierge. Se croire capable de faire des leçons aux autres. de l'ordre de l'horizon. Voici encore une autre tentation très ordinaire chez les commençants. Donc si vous avez la tentation, hein, je suis un commençant. À peine ont-ils goûté les douceurs et les avantages de la vie d'oraison, qu'ils veulent voir tout le monde dans une très haute perfection. Ce désir n'est pas mauvais, mais le mode de le réaliser peut n'être pas bon s'il n'est accompagné de beaucoup de prudence et d'adresse pour ne point paraître faire la leçon aux autres. Celui qui veut procurer au prochain le bien dont il s'agit ici doit être lui-même très enraciné dans la vertu, sans quoi il ne sera pour les autres qu'un sujet de tentation. C'est là un fait qui m'est arrivé à moi-même, à l'époque où, comme je l'ai dit, je cherchais à porter d'autres personnes à l'horizon. Voilà pourquoi je le sais, humblement. Il y a là eu cette tentation, la tentation de tous les débutants. Ils ont découvert quelque chose de magnifique, alors ils veulent que tout le monde s'y précipite. Voyez, je crois que c'est très important cette petite remarque, parce que ça c'est une remarque qui fait comprendre que c'est une tentation. C'est toujours très délicat de parler de l'horizon entre nous. Oui, la théologie nous aide à communiquer la méditation, c'est très différent. Communiquer ce que nous avons découvert dans la lecture de l'écriture, très bien. Et dire nos états d'âme, ça c'est très différent. Il vaut mieux pas. Surtout pour dire, est-ce que ça t'arrive toi aussi? Où est-ce que tu en es dans l'horizon? Je voudrais bien le savoir. Non, c'est comme un secret de Dieu. Dans ce premier degré, celui de Sainte Thérèse, l'entendement à sa part. Mais Sainte Thérèse recommande vigoureusement qu'on ne l'emploie pas pendant tout le temps de l'horizon. Que l'on essaie simplement de se tenir en présence du Seigneur. L'entendement, la méditation, vous voyez, méditer sur la sagesse, la grandeur de Dieu. C'est complexe, c'est pas simple du tout ce premier degré. Il y a des choses diverses. Et on comprend très bien, c'est tout à fait l'horizon du point de départ. Et qui peut très bien revenir encore quand Dieu nous met dans l'aridité. On essaie de brûler. Et le bois est souvent très sec. Alors ça fait beaucoup de fumée. Alors à ce moment-là, l'entendement peut venir nous aider. Alors, il ne faut pas oublier cela. Revenons donc à ceux qui se servent du discours. Je leur recommande de ne pas l'employer tout le temps de l'oraison. Pendant un certain temps, c'est bon. Plutôt que de s'ennuyer. Méditez la parole de Dieu. C'est ça, se servir de l'entendement. Comme cet exercice est très méritoire et plein de délices, il leur semble qu'il ne doit y avoir pour eux ni dimanche, ni un seul instant exempt de travail. Sans quoi, ils s'imaginent aussitôt qu'ils perdent leur temps. Et on intellectualise trop l'oraison. C'est le danger des jeunes théologiens qui prennent la somme théologique de saint Thomas. On ne perd pas son temps, on lit un article. Excellent comme oraison, la bonté de Dieu. On contemple la bonté de Dieu. Et on lit un article, l'entendement marche. Sainte Thérèse ne se condamne pas. Non, non. C'est quelquefois mieux qu'autre chose. Et c'est souvent beaucoup mieux qu'autre chose. Mais ne le faisons pas tout le temps. bouleverser l'entendement. Sainte Thérèse nous dit qu'elle regarde cela comme un gain très précieux. Qu'il se tienne donc, ainsi que je l'ai dit, en présence de notre Seigneur, sans fatiguer leur entendement, qu'ils lui parlent et mettent leur joie à se trouver avec lui, qu'ils ne se préoccupent point de composer des discours, mais lui expliquent.
Semaine à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre
que si vous y allez, les mains dans les poches, vous allez, quand le Saint-Esprit est là, c'est très simple, mais quand il n'est pas là, vous allez vous ennuyer une demi-heure. Oh, c'est désolant de s'ennuyer en face du Seigneur. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que vous vous ennuyez. Il veut que vous vous amusiez auprès de lui. Il veut ça parce qu'il veut votre bien. Alors, très bien. Vous avez emmené un livre, vous avez emmené l'évangile de Saint Jean. Ayez toujours l'évangile de Saint Jean. Et puis vous pouvez lire un passage. La dernière semaine, vous y revenez indéfiniment. Vous récitez un peu de chapelet. Vous prenez quelque chose d'un petit peu plus difficile. Si vous êtes habitué de le faire, ne preniez jamais en première lecture un article de saint Thomas pendant l'oraison, mais en troisième lecture ou en quatrième, où l'effort intellectuel est déjà dépassé. Et vous pouvez savourer. Quand vous lisez ce que saint Thomas nous dit sur Dieu est souverainement bon, Dieu est infini. Ça peut être, pour certains, un merveilleux moyen de contempler l'infini de Dieu. Ça fait partie du premier degré d'oraison. Se servir un tout petit peu. Vous voyez, ce que je dis de saint Thomas, c'est vrai d'un théologien. Ne dites jamais, je vais lire ce théologien pendant l'oraison. Ah non, ce ne serait pas bien. Parce qu'alors vous transformerez l'oraison en une étude théologique. Mais ayant lu certains théologiens, le père Chardon, l'ayant aimé, ayant noté quelques passages qui sont particulièrement beaux, alors vous pouvez très bien emmener ce livre à la chapelle et pendant l'oraison lire ce passage. Ce n'est pas du tout contraire à ce que représente ce temps consacré à l'oraison. Oui, ça c'est l'oraison active, c'est nous qui faisons ça en demandant au Saint-Esprit de nous aider. Mais il faut, je crois, être intelligent pour Dieu et ne pas hésiter, comme dit sainte Thérèse, de faire agir l'entendement. Alors, dans le langage de sainte Thérèse, il faut bien distinguer les trois puissances de l'âme. L'entendement, qui est l'intelligence, la mémoire et la volonté. Sainte Thérèse distingue bien l'imagination, qu'elle appelle aussi pensée de l'entendement. C'est très curieux. Des passages très intéressants. Celui qui ferait une étude des facultés de l'âme dans sainte Thérèse et dans saint Jean de la Croix, comparativement à saint Thomas, c'est très intéressant de voir qu'elle prend le langage, l'entendement, la mémoire, la volonté. Et l'entendement, c'est l'intelligence et de temps en temps l'imagination, qu'elle appelle aussi pensée. Vous voyez, la cogitatio. L'entendement, pour elle, médite. Et cela est très nécessaire et très utile pour les commençants, premier degré d'oraison, où il y a une partie de méditation. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas passer trop vite, voyez, au deuxième degré d'oraison. Je crois qu'il faut beaucoup d'humilité, d'accepter, mais oui, on a de la peine, on commence à faire oraison. Alors on ne sait pas faire oraison. Il faut se mettre à l'école des grands maîtres. Et sainte Thérèse nous est donnée comme une mère de l'oraison. Elle nous apprend. Il faut demander à la Vierge Marie aussi. Et la Vierge Marie nous apprend. L'entendement médite. Et cela est très nécessaire et très utile pour les commençants. Mais ce n'est pas l'oraison au sens absolu. ajouterions-nous un peu de chapelet. Et puis l'entendement qui est au service de ça, la méditation. Pour nous aider, on prend l'écriture, la lectio divina, qui est une méditation. Et puis on terminerait son temps d'oraison en reprenant la prière et les appels profonds de notre âme vers Jésus. Je crois que c'est vraiment ça pour elle, le premier degré d'oraison pour les commençants. Pour elle, c'est très important cela, d'accepter d'être des commençants. Dans l'ordre de l'oraison, du reste, d'une certaine manière, hein, comprenez bien, étant donné que c'est toujours tellement gratuit, on est toujours des commençants. Il y a comme deux parties, l'aspect volontaire, affectif, la prière, et l'entendement, la méditation, la lectio divina. Le deuxième degré d'oraison, la norian, l'oraison de quiétude ou de recueillement. Recueillement des puissances au-delà de nous. La volonté seule est occupée à devenir la captive de celui qu'elle aime. Ça, c'est bien Sainte Thérèse. C'est très très beau. Vous voyez, de voir ce point de vue-là, de voir ce qu'elle dit. La volonté seule est occupée à devenir la captive de celui qu'elle aime. C'est notre cœur qui est saisi. L'entendement est comme suspendu. Je vous lis ce passage. 137, toujours, de la vie écrite par elle-même. Je veux dire que l'eau est plus proche de nous, parce que la grâce se fait alors connaître à l'âme avec plus de clarté. Ceci, c'est un recueillement des puissances au-dedans de nous, pour jouir de ce contentement avec plus de saveur. Mais les puissances ne sont ni perdues, ni endormie. La volonté seule est occupée, sans savoir comment à se rendre captive. Elle ne peut que donner son consentement pour que Dieu l'emprisonne, assurée qu'elle est de devenir la captive de celui qu'elle aime. Ô Jésus, ô mon Dieu, comme votre amour nous aide ici. Il tient le nôtre tellement enchaîné qu'il ne lui laisse pas la liberté d'aimer alors autre chose que vous. On ne peut aimer que Jésus. Les deux autres puissances, dont on l'a vu, les deux autres puissances, c'est la mémoire et la volonté. Pardon, c'est l'entendement et la mémoire. Les deux autres puissances viennent au secours de la volonté pour la disposer à jouir d'un si grand bien. Parfois cependant, alors même que la volonté est unie à Dieu, elle est très gênée par ces deux puissances. Mais la volonté ne doit pas s'en préoccuper. Elle doit demeurer dans sa paix et sa quiétude. Car si elle cherche à les recueillir, elle se perd avec elle. On voit très bien, petite dispute intérieure. Tais-toi. Et quand vous dites ça, vous faites du bruit. Parce que l'entendement n'a pas du tout envie de se taire. Alors il faut laisser les chiens aboyer. Il ne faut pas s'en occuper. Ça, c'est très très net. Ça intéresse toujours ça. C'est le problème de l'oraison de quiétude, justement. L'entendement et la mémoire peuvent s'écarter, mais la volonté reste tellement unie à Dieu qu'elle garde la paix. On est au-delà de l'entendement. peuvent s'agiter un tout petit peu. Faut pas s'inquiéter. C'est ce qu'elle dit. Elle doit demeurer, mais la volonté ne doit pas s'en préoccuper. Elle doit demeurer dans sa paix et sa quiétude. Car si elle cherche à les recueillir, elle se perd avec elle. Ces deux puissances sont alors comme des colombes qui, non contentes de la nourriture que le maître du colombier leur donne, sans aucun travail de leur part, vont en chercher ailleurs et s'en trouvent si mal qu'elles reviennent. Elles vont et viennent dans l'espoir que la volonté leur fera part de ces délices. Si le Seigneur le trouve bon, il leur donne quelque nourriture et elles s'arrêtent. Sinon, elles continuent encore en chercher. C'est très très joli ça. On voit très bien ça. Voyez, la quiétude, c'est dans le cœur. C'est notre cœur qui est pris, qui est saisi. C'est la volonté. Et la volonté, c'est notre cœur. Hein. Faisons attention. Soyons pas cartésiens. Pour Descartes, la volonté, c'est une volonté d'efficacité. Pour saint Thomas, sainte Thérèse, saint Jean de la Croix, la volonté est une faculté d'aimer. En premier lieu, c'est aussi une faculté d'efficacité. Mais c'est en premier lieu une capacité d'aimer. Donc quand elle parle de la quiétude, vous comprenez, et quel rôle elle fait, la relation avec la volonté, on voit bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas de quiétude au niveau de l'efficacité. C'est impossible. La quiétude peut être qu'au niveau de l'amour. Et la quiétude au niveau de l'amour, c'est un amour qui est pacifique, qui reçoit l'amour. C'est ça la quiétude. Mais comprenez bien, on ne fait l'expérience de la quiétude que sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Vous ne pouvez pas vous mettre en quiétude quand vous voulez. Impossible. Vous pouvez méditer, prier, faire des actes d'adoration quand vous voulez. Ça oui. Je veux adorer. Je veux méditer. Si vous n'êtes pas trop bête et que vous êtes un tout petit peu habitué, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas trop mal à l'estomac et si vous ne dormez pas trop, vous pouvez quand vous voulez méditer. Vous pouvez quand vous voulez réciter le chapelet. Tandis que vous ne pouvez pas, quand vous voulez, entrer dans l'oraison de quiétude. L'oraison de quiétude, c'est le premier moment de l'oraison infuse. Et ça commence, vous voyez, c'est ça qui est très important à souligner, ça commence par le cœur, par l'amour. C'est l'amour qui nous introduit dans l'oraison de quiétude. Et quand l'amour est vraiment dans cette oraison de quiétude, la mémoire et l'entendement ne se retirent pas tout de suite. Mais on ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas. Cette oraison de quiétude, ce recueillement est une petite étincelle du véritable amour que Dieu commence à allumer en l'âme. Oui, c'est l'amour divin. Ça relève des dons du Saint-Esprit. Je crois que ça relève du don de piété, des dons affectifs. Et ça peut relever aussi du don de sagesse. Pour ça, quand il dit une petite étincelle du véritable amour que Dieu commence à allumer dans l'âme, l'amour que Dieu commence à allumer dans l'âme, c'est le don de sagesse. Mais c'était qu'une petite étincelle. L'âme n'a qu'une chose à faire, ne pas faire de bruit. Ne pas méditer et ne plus raisonner. Laissez l'Esprit Saint agir. Alors elle souligne, c'est un repos. Mais il faut toujours se détacher des contentements désiré de consolation. Voyez les douceurs du démon. C'était les enlisements du démon. Le démon aime mieux qu'on s'arrête. Laissez l'Esprit Saint agir. Sainte Thérèse, toute âme qui désire l'oraison pénètre dans ce degré de l'oraison. Sainte Thérèse, n'hésitez pas de dire comme beaucoup de ces carmélites, entrez dans ce degré de l'oraison de quiétude. Mais elle ajoute aussi que bonne âme dépasse ce degré d'oraison. Autrement dit, le degré d'oraison de l'inquiétude doit être normal. Ça peut être très vite, dès le noviciat. C'est souhaitable. Il faut en avoir un très grand désir. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, hein, c'est pas nous. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Mais ne résistons pas à cela et laissons l'Esprit Saint nous prendre et dépassons l'entendement. La méditation, dépassons tout ce qui serait de l'ordre